Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-il possible de courir tous les jours? C'était la question que je me posais le 1er juillet, rappelez-vous, et aujourd'hui, il est temps de faire le bilan. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de running, de trail, de lifestyle sportif, de bonheur de courir et de comment je peux vous aider à retrouver le chemin de vos baskets, hein. Parfois les baskets qui ont disparu, on ne sait pas où elles étaient passées pendant plusieurs années, et puis un jour, on les récupère, on les retrouve et on se dit « Oh, comment ça marche, comment ça fonctionne ?» Et si j'essaie d'aller courir, bon bien sûr, là les premiers mètres, les premières centaines de mètres sont un petit peu compliqués, et puis, petit à petit, on y prend goût, et vous savez que dans ce cas-là, je suis là aussi pour vous aider à faire les premiers pas, à progresser petit à petit et passer d'étape en étape, et puis aussi pour faire quelques expériences, quelques expérimentations pour vous dire par où moi j'en suis passé. Vous rappelez-vous, Kilomètre 42 a démarré comme la documentation de mon premier marathon. C'était pas forcément facile, j'ai dû abandonner à 15 jours de mon premier marathon, j'ai repris ensuite l'entraînement, etc. Mais c'est ça le parcours d'un sportif, et dans ces expérimentations que j'ai voulu faire, il y a bien sûr de courir tous les jours. Je dis bien sûr parce que c'est l'idée qui me trottait dans la tête, et donc on va faire le bilan aujourd'hui, et je vais répondre à vos questions. Parce que vous avez été nombreux à me poser des questions, je peux pas répondre à toutes les questions, mais vous m'avez posé de beaucoup de questions, et donc j'essaie de répondre. J'ai fait une sélection dans les questions que vous m'avez posées, au fur et à mesure du mois, et puis dans des stickers de questions sur Instagram, etc. Pour faire un bilan, j'essaie de faire le plus large possible. Mais avant, d'abord, un petit mot pour remercier les patrons, ceux qui financent le podcast via Patreon. Vous faites patreon.com/km42. Alors je dis finance le podcast, mais en fait, vous savez que ça finance plus que le podcast. C'est financer ma vie sportive, tout simplement. C'est financer mon rêve d'enfant. C'est m'aider à me rapprocher de mon rêve d'enfant, de réaliser mon rêve d'enfant à 40 ans passés. Moi, j'ai commencé à courir à 40 ans et petit à petit, je me prends en jeu et je me dis, est-ce que je pourrais pas devenir un sportif? Est-ce que je pourrais pas vivre du sport? Est-ce que je pourrais pas tout simplement faire du sport, non pas comme un loisir une heure de temps en temps par-ci par-là, mais en faire vraiment mon activité centrale, mon activité principale? Et Patreon fait partie de ce projet, tout simplement, tout comme fait partie de ce projet bien sûr le podcast que vous êtes en train d'écouter, mais fait aussi partie de ce projet le Hamsters Running Club, sur lequel c'est la communauté, vraiment une communauté dans laquelle on peut discuter, on peut échanger, on peut partager. Donc voilà, tout ça fait partie d'un projet global, et puis dans ce projet global, il y a d'autres choses qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure, et ça vous pouvez le découvrir. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur Patreon ou pour ceux qui sont dans le Hamsters Running Club, il y a un petit peu les exclusivités à l'avance. Par exemple sur Patreon, tous les lundis je diffuse mon journal d'entraînement. Le principe, en fait, c'est que je donne un petit peu le contenu de mes séances, de ce que j'ai fait la semaine précédente, et puis je donne un petit peu un aperçu de sur quoi je travaille, ce que je suis en train de monter, montrer quelques avant-premières, quels sont les invités, etc. Et puis bien sûr, il y a aussi un bonus qui est un gros bonus, c'est que vous avez tous les épisodes sans la pub, vraiment sans la pub, sans la pub de début, sans la coupure pub au milieu et sans la pub de fin. Voilà, donc vous faites patreon.com/km42, vous venez voir, vous faites toc toc toc, je suis là, et puis vous pouvez choisir à partir de 1€ par épisode, et puis vous pouvez comme ça avoir tous ces petits avantages. Et puis vous pouvez aussi venir toquer à la porte du Hamsters Running Club, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Là vous avez une communauté qui est en train de se monter, dans lequel finalement on se retrouve entre personnes qui ont envie de discuter, mais dans la bienveillance, vraiment dans la bienveillance, dans le partage. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez des conseils à donner, si vous avez envie de trouver des gens avec lesquels courir, avec lesquels échanger, avoir des avis, avoir échanger juste comme ça, mais ça peut être de parler de tout et de rien aussi, ça peut être de parler par exemple du beau temps, ça peut être de parler des projets qu'on peut avoir à côté, ça peut être de s'encourager les uns les autres, et le Hamsters Running Club est là. C'est vraiment un club, je l'avais dit dans un épisode récent, c'est vraiment fait. C'est pas un groupe Facebook, quoi. C'est pas un truc qui est noyé au milieu de Facebook, qui est noyé au milieu de toutes les critiques de la tempête de Facebook, etc. Non. Là, on est vraiment tranquillement dans notre coin. Je peux pas trop vous dire ce qui se passe à l'intérieur parce que il y a une règle importante, c'est que ce qui se passe dans le Hamsters Running Club reste dans le Hamsters Running Club. Bon, ça vous rappellera une formule très connue, mais c'est vraiment l'essence même de la communauté. C'est-à-dire que la communauté, pour voir ce qui se passe dedans, il faut rentrer dedans. Et vraiment, ensuite, faut participez, vous allez voir, hein, tout le monde, on vous fait un petit message de bienvenue, il y a des petits messages, vous faites des petits sondages, des petites questions, des photos, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à venir taper à la porte. Enfin, je dois vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'envoyez, pour tous les dédicaces que vous faites aussi sur les réseaux sociaux. Alors là, j'ai une pensée, par exemple, pour ceux qui m'envoient des messages sur Twitter, pour me dire, bah voilà, je suis en train de courir à tel endroit, j'ai écouté ça aujourd'hui, j'ai écouté tel épisode. Alors vous pouvez le faire, bah, tout simplement sur Twitter, vous mentionnez @BertrandSoulier, mais vous pouvez le faire aussi en story sur Instagram, avec une petite photo, ça peut être une photo de votre téléphone, ça peut être une photo de là où vous êtes, ça peut être une photo de vos baskets, de vos pieds, de votre tête en train de sourire. À vous de voir ce que vous faites. Vous me faites @BertrandSoulier, hein, vous mentionnez @BertrandSoulier, vous faites le hashtag KM42podcast, l'un des deux, ou les deux, hein, tout simplement. Et ça aide le podcast à être découvert, ça aide vos amis à découvrir le podcast, à découvrir peut-être, hein, l'univers du podcast. Et dans ce cas-là, vous savez, encore le plus simple pour ça, c'est carrément de leur installer directement sur leur téléphone. Oui, vous leur installez directement sur le téléphone, vous leur montrez comment ça marche, vous prenez deux amis comme ça, vous leur montrez comment ça marche, vous leur installez sur le téléphone, et comme ça, on agrandit la famille de ceux qui adorent écouter du podcast, et donc pour vous accompagner notamment dans vos sorties longues, dans vos balades, etc. Voilà, on est là dans vos oreilles, nous les podcasteurs, qui vous proposons du contenu qui vous aide, vous, à progresser, et c'est vraiment le but de ce podcast. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça me fait tellement chaud au cœur quand je reçois des messages montrant que je vous aide à progresser. Et là, je voudrais remercier Vincent. Alors, c'est pas un commentaire sur iTunes, parce que je reçois plein de messages privés. Je me permets de citer le message de Vincent qui me dit: quand je pense qu'il y a encore un mois, je me disais la course n'est pas pour moi. J'ai perdu 8 kilos en 2,2 mois. Bravo Vincent. Et je commence à courir. Ouf, le virage s'est fait avec ton podcast, l'épisode marcher ou courir. En me rendant compte que la marche amène à la course, j'ai osé grâce à toi. Et il met un petit cœur à la fin. Et là vraiment, Vincent, merci beaucoup. Parce que dans mon petit cœur à moi de néo-sportif, hein, de podcasteur, eh ben, ça montre tout simplement que je vous aide. Voilà, je vous aide, que je vous aide à passer un cap. Et oui, parce que, et on l'a dit dans de nombreux épisodes, rappelez-vous l'épisode avec Cécile Bertin, rappelez-vous aussi l'épisode même avec Yoann Stuck qui dit que la première séance, elle est pas facile, c'est pas facile de courir comme ça, et au début, il faut s'accrocher, c'est compliqué, etc. Et moi-même, il y a un moment donné, je me disais, je ne peux pas courir, je me sentais trop gros, c'était trop difficile, trop compliqué, hein. J'ai trouvé il y a pas longtemps une séance dans laquelle vraiment j'avais dû courir 3 km mais peut-être en une demi-heure et encore je sais même pas, et je devais être à la fin de ma vie. J'ai des souvenirs où j'ai couru le long de la plage, où normalement vous savez c'est le beau cadre, il y a la plage, il y a tout ce que vous voulez, et où je finis par insulter ma montre en disant mais j'en ai marre quoi, c'est pas possible, c'est trop dur, j'arriverai pas, j'arriverai jamais. Donc le parcours, il est pas si simple que ça, et c'est ce que je vais vous montrer, hein, à travers le podcast, c'est ce que je vais vous expliquer, même si bien sûr vous vous dites bah tiens Bertrand, il a fait des étapes à laquelle moi je ne pense pas arriver. Alors vous avez vu, il y a des invités qui eux sont des étapes encore différentes, et puis on est chacun à notre rythme, hein. Chacun prend la route que l'on veut, chacun prend le chemin que l'on veut. Certains c'est sur la route, certains vont faire de la piste, certains c'est en club, certains c'est tout seul, certains vont faire du trail, certains vont faire de l'ultra, certains vont faire de la courte distance, certains sont attirés par la vitesse, d'autres par les longues distances. Voilà, chacun en fait tout ce qu'on veut, chacun on le fait comme on veut, surtout vraiment à sa manière, tel qu'on le veut. Quelqu'un m'a dit bah courir un marathon pour moi c'est mon Everest à moi. Et ben pour l'instant je ne sais pas encore trop lequel c'est, d'ailleurs faut que je choisisse un petit peu, parce que c'est une discussion que j'ai eue avec un de mes coachs qui m'a dit bah tiens, ça serait quoi toi le truc, réfléchis au truc qui va vraiment t'animer pour courir sur les années qui viennent. Ouais, bon, pour l'instant j'ai pas trop choisi encore mon Everest, mais on a chacun notre Everest, et notre Everest des fois au départ, hein, ça peut être de courir bah quelques minutes, et puis faire la première demi-heure, puis la première heure, etc. Et vous savez vraiment c'est le but de tout ça, donc c'est pour ça que j'insiste un peu aujourd'hui. Vous voyez, vous allez pouvoir trouver que c'est un petit peu lourdingue cette introduction, mais en fait quand je vois tous les messages, la plupart des messages que je reçois, c'est vraiment hein, des gens, vous avez trouvé en fait dans certains conseils que je donne un moyen de progresser, de courir, de commencer à courir, de progresser un petit peu, et de voir en fait que vous n'êtes pas tout seul. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est que non, vous n'êtes pas tout seul, et le Hamsters Running Club, il vous montre que vous n'êtes pas tout seul. En fait, on est tous une grande équipe, voilà, une grande équipe. On a été des gros hamsters, des hamsters des fois pas forcément gros, mais des hamsters qui ont oublié qu'il fallait qu'ils courent, ou qui couraient pas après les bonnes choses, ou alors qui vraiment partaient à la catastrophe s'ils s'arrêtaient pas de faire quelque chose. Mais en tout cas, on est là maintenant à se dire, en courant, en bougeant, en avançant, hein, à ma manière, comme je le fais, eh ben quelque part, je m'évade de la roue qui n'était peut-être pas la mienne, ou qui dans laquelle je me sentais pas tout à fait bien, et je construis quelque chose dans lequel je me sens mieux et j'ai plus d'énergie. Et vraiment, voilà, c'est pour ça, je vous remercie aussi par ce type de message qui me montre que la direction, elle est bonne et qu'on avance tous ensemble dans la bonne direction. Bon, maintenant, ceci étant dit, il est temps de passer à vos questions sur mon défi de courir tous les jours au mois de juillet. Est-ce que j'ai couru tous les jours au mois de juillet? Alors, si vous me suivez sur Instagram et sur Strava, donc Instagram @BertrandSoulier, sur Strava Bertrand Soulier aussi, vous avez vu que la mission est réussie. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 août. Mon défi 31 séances de running au mois de juillet est réussi largement. Je vous rappelle que le concept, c'était de dire je vais courir au moins 1 km ou 10 minutes par jour. Bon, je vais vous le dire, j'ai couru toujours plus. J'avais dit que je pouvais alterner marche et course. C'est ce que j'ai fait certains jours, ça dépendait un petit peu des circonstances. Je vais vous raconter tout ça parce que vous avez plein de questions qui m'ont été posées. Des questions vraiment pour savoir. Pour certains d'ailleurs m'ont dit tiens, je serais bien tenté de faire la même chose, mais comment t'as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc je vais essayer de répondre à ces questions. J'ai essayé de thématiser un petit peu les choses. La première question qui m'est venue vient de ma femme. Quelle était ta motivation première, quelles ont été tes difficultés? Alors ma motivation première, c'était d'abord de voir si c'était possible. Il y a une question de, est-ce que c'était possible de le faire physiquement ou est-ce que c'était possible de le faire aussi mentalement? Vraiment, c'était de savoir comment mon corps allait réagir, comment ma tête allait réagir, est-ce que j'allais m'ennuyer, est-ce que j'allais être trop fatigué, est-ce que j'allais, il y a des jours, je dis non, je vais abandonner, est-ce que, à quel point j'étais capable de m'accrocher? Et vraiment, c'était une expérimentation de voir ce qui était possible. Quelles sont mes difficultés? Bon, le bilan va vous permettre de voir un petit peu quelles sont les difficultés, mais aussi quelles sont les choses qui m'ont surprise de manière plutôt positive. Quand je dis plutôt positive, c'est que je vais vous donner un exemple. Ce matin, nous sommes donc le 4 août, je suis allé courir ce matin, 9,5 km, et je me suis fait une remarque à la fin de cette séance en disant « je n'ai pas mal aux jambes ». Et ce constat de faire « tiens, je n'ai pas mal aux jambes, je n'ai pas de courbatures de jour en jour, etc. » me montre aussi en fait le progrès que j'ai fait, parce qu'il y a une époque où courir 5 km, j'avais mal aux jambes, même courir beaucoup moins, j'avais du mal à monter les escaliers. Et même au début de l'expérimentation, je vous rappelle que après le confinement, j'avançais vraiment pas beaucoup, j'avais pas couru pendant le confinement. Ensuite, je me suis blessé au mollet, j'avais mal au mollet pendant 15 jours, j'avais arrêté, j'ai fait de l'alternance course et marche, etc. Donc même courir 9 km à un moment donné était quelque chose qui n'était pas si évident que ça. Et donc petit à petit, en fait, au fil un peu du mois de juin, puis surtout au fil de ce mois de juillet, je me suis rendu compte tout simplement que la forme était revenue et qu'avec l'accumulation de kilométrage, ça me permettait d'être tout simplement beaucoup mieux dans mes baskets, beaucoup mieux dans mon corps, beaucoup mieux dans mes mollets, dans mes cuisses, etc. Et que mon cœur aussi, je regarde un petit peu sur Strava, sur mon cardio, etc. Au niveau de la fréquence cardiaque, il y a des points de passage. Par moment, j'ai même, je peux le dire, battu certains de mes records sur des segments Strava, même si je suis pas très féru de tout ça, mais des fois ça fait plaisir, vous met une petite récompense. Je me suis rendu compte que j'étais allé beaucoup plus vite sur certains segments en ayant une fréquence cardiaque qui était plus basse, ce qui montre quand même qu'il y a du progrès au niveau du cardio, qu'il y a du progrès global au niveau de la forme et du bien-être, qui est pas seulement dans mon corps, mais je vous le dirai aussi, qui est aussi dans ma tête. Bon, on peut pas vraiment faire un bilan sans parler de chiffres. Et donc, ça m'amène à la question de Romano qui m'a demandé combien de kilomètres j'ai fait au final. Alors, je vous avais rappelé une règle, c'était ma règle des 10%. C'était de dire que je ne pouvais augmenter ma distance de semaine en semaine que de 10%. J'ai un petit peu truandé avec la règle, c'est ce que je racontais dans le podcast privé, j'ai un petit peu truandé avec la règle, parce que la première semaine, donc c'était pas une semaine complète, parce que ça commençait un mercredi, donc il manquait, après moi je considère qu'une semaine, c'est du lundi au dimanche, voilà à peu près, donc notre semaine classique, on va dire. Donc j'ai commencé un mercredi, donc j'ai commencé sur 5 jours et j'avais 30,13 km au compteur. Bon, j'avais dit, si je rajoute 10%, ça doit faire 33 km à faire sur 7 jours, ça faisait une moyenne qui n'était pas énorme. Et donc la première semaine, je suis monté à 39 km sur 7 jours. La troisième semaine, j'avais droit donc avec, on va dire 40 plus 10%, ça faisait 44 km. Je suis monté à 47. Bon, là encore, j'ai un peu truandé, mais je me sentais bien, voilà, tout se passait bien. Et puis la semaine d'après, Bon, j'ai encore truandé, j'avais droit à 52, j'ai monté à 55. Et puis sur la semaine 5, alors officiellement, si on prend que le mois de juillet, j'ai fait que 50,53 km sur 5 jours de juillet qui est resté dans la dernière semaine. Mais en fait, sur la dernière semaine, j'ai fait 73,53 km. Bon là, c'est 30% d'augmentation sur la semaine au global. Ça s'explique. Notamment parce que j'ai fait une belle sortie longue pour terminer ce défi, je vous en parlerai après, et puis j'ai fait des sorties un petit peu plus rythmées par moment, où il y avait un peu plus de distance, et puis j'ai voulu explorer d'autres endroits, etc. Et j'y reviendrai notamment sur la partie organisation, parce que c'est un point qui est important. Donc en moyenne, vous voyez que la première semaine, j'ai couru environ 6 km en moyenne, sur les 5 premiers jours. Après, à la fin de la dernière semaine, je cours, on va dire 10,5 km de moyenne par jour sur la dernière semaine, sur les 7 derniers jours. Donc là, on voit vraiment que oui, j'ai largement augmenté mon quota de course et je suis à plus de 10%, mais que sur la moyenne du mois, je suis à 7,2 km par jour de moyenne. Ma plus petite sortie, c'est 2,5 km le jour 6, c'était un lundi, et en fait tous les lundis ont été des jours assez calmes, et la plus grosse sortie, c'était 17,5 km le 31 juillet. Alors j'en ai une autre aussi qui est à peu près dans la même zone, qui est le 14 juillet. Là, je m'étais planté, j'ai prévu de faire 14 km le 14 juillet, je me suis trouvé à faire 17 km parce que je me suis perdu. Et le point commun entre ces deux sorties du 14 juillet et du 31 juillet, c'est que je me suis perdu en voulant monter sur la même montagne. Voilà, ça m'apprendra. Une fois, je l'ai prise par la droite, une fois, j'ai prise par la gauche. Dans tous les cas, j'ai pris le chemin le plus long pour monter. Et donc, j'ai même dû me suis même retrouvé dans les ronces, etc. Mais à chaque fois, je me retrouve avec environ 17,5 km, entre 17 et 17,5. Donc voilà, c'est à peu près, vous avez le bilan chiffré de ce que j'ai fait. Sur mon mois de juillet, j'ai fait 223,29 km au mois de juillet. Ce qui est un bon mois, un très bon mois, parce que j'ai regardé même ma semaine à 73 km. C'est ma plus grosse semaine de ma carrière, de ma petite carrière de sportif. Même en prépa marathon, je montais pas au-dessus de 68, 69. Bon là, elle s'est arrêtée un petit peu en cours, parce que sinon elle aurait été beaucoup plus importante, je pense. Mais j'étais pas monté au-dessus de 70 km. Donc là, en fait, ça m'a permis aussi de faire ma plus grosse semaine de course de ma carrière sportive, de ma petite carrière sportive, et tout ça, en fait, sans ressentir une fatigue importante. Et je vous en reparlerai après, parce que c'est un élément qui est extrêmement important, mais aussi extrêmement surprenant dans mon expérimentation. Mais avant, j'ai eu plein de questions sur la partie organisation, parce que ça, c'est une question qui était importante pour moi, de savoir est-ce que j'arriverai à m'organiser pour courir tous les jours. Moi, je vous rappelle, courir, c'est pas mon métier, pas encore, même si je vais en faire mon métier, ou en tout cas travailler dans le sport, trouver un moyen de travailler dans le sport. Je suis marié, donc j'ai un boulot, même si je travaille à la maison, et puis on a une petite fille qui a 2 ans et demi, donc qui demande aussi beaucoup d'attention, qui veut aller jouer, le matin, on doit l'amener à la crèche, il faut la récupérer à la crèche le soir, etc. Et donc, il y a toute une question d'organisation, de savoir est-ce que je pouvais ou pas m'organiser. Et donc, il y a eu aussi pas mal de questions, et c'est normal aussi de vous qui me demandez, mais comment tu t'es organisé ? Alors, quelles sont les questions que j'ai eues dans ce sens-là ? Par exemple, c'est est-ce que j'ai alterné des courses longues, des courses petites ou pas forcément ? Alors, en fait, ça venait un petit peu de mon emploi du temps. Je vous ai dit, le lundi était une journée qui était systématiquement plus cool que les autres pour deux raisons. La première, c'était une sorte de journée de repos qui était un peu courue, mais entre 2, 3, 4 kilomètres. Je crois que le maximum, j'ai dû faire 5 ou 6 un lundi, grand maximum. Et puis, c'était aussi une question d'organisation parce que ma fille, il faut la réveiller entre 7h et 7h30 pour l'amener à la crèche. Et puis, je pouvais pas aller courir comme ça tout le matin, même si je partais c'est autour de 5h30, le dernier jour d'ailleurs, je partais à 5h30 avec la frontale parce que les journées ont raccourci. Et donc, pour être à 7h, 7h15 à la maison, ça fait des sorties, vous voyez, on est 1h45, 2h, on fait pas des sorties qui sont non plus extrêmement longues. Et donc aussi, il y a des fois des jours où il y a des contraintes. Par exemple, le lundi, c'est le jour où je fais les épisodes privés de podcast, à la fois pour mon podcast Votre Coach Web et donc pour Kilomètre 42, où là donc, je voudrais que les épisodes sortent avant 7h, autour de 7h, donc il y a le temps d'enregistrement, de préparation un petit peu de ces épisodes privés, et donc ensuite aller courir. Donc souvent, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je plaçais une petite demi-heure, qui me servait une petite demi-heure de récup, et donc ça, c'était par exemple une des contraintes d'organisation. Cette contrainte d'organisation a déboulé, a débouché sur finalement de se dire que le lundi était un peu plus cool, que ça permet de récupérer d'un week-end où notamment il y avait des sorties longues le samedi ou le dimanche, et des fois le samedi et le dimanche. Et donc ça tombait pas mal cette histoire-là en fait. Voilà, ça tombait pas mal. Après, bien sûr, le samedi-dimanche, j'ai moins de contraintes, parce que tout simplement, bah ma fille a besoin de la réveiller pour aller à la crèche, donc je pouvais dépasser un petit peu, je pouvais courir jusqu'à, on peut dire, je pouvais faire une sortie en partant à 6h, je pouvais revenir à 8h30, si j'avais voulu hein, faire courir 2h30, je pouvais le faire. Ça, c'était potentiellement possible, hein, c'était pas un problème. Je l'ai pas forcément fait parce que je vous rappelle que cette règle de 10%, je voulais pas non plus augmenter de trop les distances parce que qui dit faire trop, c'était aussi prendre le risque de créer trop de stress mécanique, trop de fatigue, et donc me retrouver fatigué, et donc prendre le risque de me blesser. Donc, j'avais dans ces alternances-là d'organisation, de contraintes, etc., ce que j'ai alterné plus tôt, c'était en fait des types de séances. Et ce qui m'amène en fait à la question suivante qui m'était posée par Hermano, que je remercie beaucoup pour la question, qui m'a dit, est-ce que j'avais un programme précis ou est-ce que je faisais ça au feeling? Alors, au départ, j'ai fait ça au feeling. Au départ, comme c'était une expérimentation, je me suis dit, bon, est-ce que déjà tu vas aller courir? Bon, t'as couru hier, est-ce que tu vas courir aujourd'hui? Est-ce que tu vas courir après? Bon, question de feeling, je dois dire que le troisième jour, j'ai trouvé que je me suis demandé si j'ai pas parti dans une espèce de galère en me disant, voilà, tu vas vraiment courir tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à courir tous les jours? Est-ce que tu vas prendre comment tu vas courir? Est-ce que tu vas aller faire les chemins, etc.? Par où tu vas partir, etc.? Et donc, là-dedans, hein, dans cette organisation-là, c'est vrai, hein, très clairement, c'est vrai, que j'ai commencé à me structurer, à me restructurer aussi sur quelque chose qui ressemble un peu à mon programme de la préparation marathon. En préparation marathon, pour le marathon d'Albi, c'est ce que j'avais fait aussi pour Paris, j'avais une préparation, rappelez-vous, le mardi c'était l'endurance fondamentale, le mercredi de la vitesse avec le club, le vendredi de la vitesse longue ou des côtes ou du seuil avec le club, et puis le dimanche c'était ma sortie longue tout seul. Et donc ça, en fait, c'est mon canevas de base, on va dire que c'est ma semaine de base. Bon, bien sûr, là ça fait 4 jours, donc les 3 autres jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé de l'endurance fondamentale, donc j'ai pas mis de vitesse, j'ai placé tout simplement le lundi, donc petite sortie, un peu de récup, j'ai placé le jeudi et le samedi plutôt de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire faire 1 heure à toute petite foulée, et on m'a posé la question de savoir ce qu'était l'endurance fondamentale. Je rappelle que c'est une vitesse qui ne génère pas de fatigue et à laquelle vous pouvez parler normalement en courant, ça ne génère pas de fatigue, mais ça vous permet de faire du volume. Et donc en fait, le gain de volume que j'ai fait, je l'ai beaucoup fait en endurance fondamentale. Mon principe de départ, c'était de dire, je vais faire 80% d'endurance fondamentale et 20% de vitesse. Et quand j'ai 20% de vitesse, c'était vraiment à fond, quoi. Pas trop de vitesse intermédiaire, etc. Même si j'en ai fait un petit peu certains jours où j'avais des vitesses un petit peu. On va dire que c'est une remarque d'Armano d'ailleurs qui m'a dit, en regardant sur Strava, m'a dit, tu te rapproches petit à petit de ta vitesse marathon. Et effectivement, petit à petit, sur certaines sorties, je me rapprochais de ma vitesse marathon. Et donc ça, c'était un petit défaut que je devais corriger, parce que la vitesse marathon, c'est ce que disait Johan Stuck dans l'épisode précédent, rappelez-vous, il disait, ouais, attention, la vitesse marathon, c'est pas la vitesse footing non plus, c'est déjà un rythme soutenu. Donc si on court toujours à sa vitesse marathon, en fait on s'épuise. Donc mon but, c'était pas de courir à vitesse marathon, c'était d'avoir certains moments, certes, qui pouvaient se rapprocher de la vitesse marathon, mais surtout avoir beaucoup beaucoup de temps qui était beaucoup plus lent et quelques temps qui étaient beaucoup plus rapides, avec même d'ailleurs des séances où j'étais carrément en sprint, vraiment en sprint, pour travailler un petit peu la vitesse, pour remettre aussi un petit peu de vitesse, parce que le principe, l'avantage de travailler l'endurance fondamentale, c'est que ça permet aussi de supporter plus facilement les exercices de vitesse. Donc c'est un petit peu ce truc-là, ce mélange comme ça. Donc je le faisais moins au feeling. Alors il y a eu certains jours, bien sûr, j'ai fait un petit peu au feeling. Il y a des jours, tiens, je vais dire, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a un truc, par contre, hein, c'est que je préparais pas mes chemins à l'avance. Ça, j'en reparlerai, mais je prépare pas trop mes chemins à l'avance. Sur le ressenti global, hein, dans la séquence suivante, je vous parlerai du ressenti global, je vous dirai pourquoi je prépare pas trop mes chemins à l'avance, mais pourquoi j'essayais de les varier tout le temps. Mais le truc, vraiment, c'était de me dire, si un jour j'avais envie de partir à droite, je partais à droite, si un jour j'avais envie de partir à gauche, je partais à gauche, mais j'avais pas des plans qui étaient prévus au point de dire, alors aujourd'hui tu vas faire tant, ça, tu vas faire 100, tant. C'est d'ailleurs pour ça que ma règle des 10% a pété certains jours, tout simplement parce que je me dis, allez, aujourd'hui t'es bien, demain tu feras un petit peu moins, tu vas gérer un petit peu comme ça, et donc c'est comme ça que je l'ai vraiment géré. Viennent ensuite maintenant des questions sur le ressenti global. Alors, comment je me sens? Ouais, c'est une question qu'on m'a posée, comment est-ce que je me sens? Alors je dois dire que le mois est passé très 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 vite. Si au troisième ou quatrième jour je me suis dit, waouh, t'as peut-être fait une bêtise de te lancer dans ce défi là, mais maintenant que tu l'as dit à tout le monde, t'es au pied du mur, bon, voilà. Mais en fait, c'est vite passé ce sentiment là, en fait, c'est très vite passé, parce que à partir de, voyez un petit peu le jour 6, là, ce fameux jour 6, le lundi, où j'ai trouvé, en me disant, bah, tiens, lundi, c'est un jour de récup et tout, j'ai trouvé, en fait, un nouveau fonctionnement, quelque chose comme ça, où c'est devenu petit à petit une habitude. Vraiment, c'est devenu une habitude. Le ressenti, c'est que j'ai accumulé du kilomètre, et ça, j'en suis très content. J'ai battu pas mal de temps sur mes segments Strava, même si le dernier jour, je pensais en passer un et j'ai pas pu y aller. Et puis l'autre jour, j'ai testé, je suis allé le voir dessus. Et en fait, le jour où j'avais fait ce temps, je me suis créé plusieurs segments Strava pour tester un petit peu, voir mes progrès. Et autant il y en a un, c'est ce que j'appelle le tour du cimetière. Là, j'ai vraiment fait péter les temps. Autant il y en a un autre. Je pensais, je me suis dit, bah tiens, attends, celui-ci, tu dois pouvoir le faire plus vite, etc. Et bah l'autre jour, je me suis rendu compte que non, c'était pas si simple que ça. Ce qui veut dire quand même que si globalement je me sens bien, si globalement je me sens pas fatigué, si je me sens de l'énergie, si je me sens capable de faire plus de kilométrage, etc. Bon, il y a quand même, sur la ressource physique, sur la vitesse potentielle, il y a quand même des moments où bah je n'arrive pas, tout simplement, à aller dans la vitesse. C'est le ressenti, il est là-dedans. C'est que en faisant beaucoup d'endurance mentale, j'ai développé le foncier. En faisant pas beaucoup de vitesse, forcément, je n'ai pas vraiment accéléré ma vitesse globale, mais en fait, j'ai accéléré ma capacité, enfin, j'ai gonflé ma capacité à pouvoir supporter l'exercice de vitesse. Et ça, je l'ai vu sur les séances où j'ai vraiment fait, par exemple, du sprint, mais en fait, c'était des sprints assez courts, en fait. Et quand je dis des sprints assez courts, c'était des séquences autour de une minute, c'était un kilomètre, vous voyez, des choses comme ça. Donc, un kilomètre, bon, ça commence à faire, mais ça fait pas, quand on veut le faire à fond, on va dire qu'on est autour d'un effort de 4 minutes. Au sens environ, ça dépend s'il y a de la pente ou pas de la pente. Si on fait, genre comme ce matin, c'était des 45 secondes, vous voyez que ça fait pas des grandes distances, hein, vraiment, sur la masse, sur les 223 km, je sais pas combien il y a de... J'ai pas regardé exactement le détail, combien il y a de kilomètres vraiment à grande vitesse, il y en a pas beaucoup, mais en fait, c'est là où je me dis, je suis capable de travailler cette vitesse-là, mais je ne l'ai pas, voilà, je ne l'ai pas. Donc je me sens très bien, je me sens pas fatigué, je me sens plein de forme, plein d'énergie, vous devez même probablement l'entendre. Donc tout sur ce point-là, c'est vraiment vraiment une expérience qui pour moi je la trouve géniale, quoi. Vous voyez, sur le coup, je me dis waouh, c'est top. Vraiment je pensais pas que j'aurais ce ressenti là. Je pensais que j'aurais un ressenti, et c'est là où je viens à la question suivante. On me dit, mais quel est le ressenti, t'as lassitude physique et mentale? Et donc je pensais que oui, au bout d'un moment j'en aurais marre, oui, je pensais qu'au moment d'un moment je serais fatigué, que j'aurais plus envie d'y aller, que je traînerais un petit peu des pieds, des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et vous allez voir même, d'ailleurs, qu'il y a une petite surprise dans cet élément-là, mais ça, j'en parle pour la fin, parce que quelqu'un m'a posé la question, enfin, plus d'une personne m'a posé la question, et donc, j'en parlerai plus tard, mais voilà, sur le ressenti global, en dehors des 3-4 premiers jours qui furent un petit peu durs, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique. C'est le fonctionnement des habitudes. Le fonctionnement des habitudes, en fait, c'est que au départ, quand vous créez une habitude, ça vous enlève des habitudes autres, hein. Par exemple, l'autre habitude, c'était de dire, je reste tranquillement chez moi au chaud en buvant un thé et puis en regardant un truc sur Instagram, plutôt que d'aller courir. Donc, au départ, bah, le cerveau, quand vous dites, maintenant, tu vas courir tous les jours, il y a des jours où il dit, ouais, attends, j'aimais bien quand tu restais à la maison avant, là, et que sans bouger, etc. Et donc, voilà, il était un petit peu dans ce truc-là. Et puis, un jour, deux jours, trois jours, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte, mon cerveau et mon corps et moi, que bah, finalement on était bien dans ces moments-là, notamment d'aller chercher, les voir le lever de soleil, etc. Et donc petit à petit, il a pris l'habitude, et j'y pensais même plus. C'est-à-dire que c'est ça en fait, hein, l'intérêt de ces habitudes-là. Et vous rappelez-vous, l'épisode du premier juillet, je disais, est-ce que ça peut devenir une habitude? Et ben oui, je me suis rendu compte que ça devenait une habitude. Et donc après, est-ce que la lassitude physique et mentale d'où elle aurait pu venir, bah, physique de courir tous les jours? Là, je l'ai dit, petit à petit, ça a disparu. Mental, ça a disparu aussi. Et aussi parce que j'ai essayé de varier au maximum les parcours. Jamais la même boucle deux fois d'affilée. Jamais la même boucle deux jours d'affilée. Alors déjà, je le fais rarement d'habitude, hein. Je choisis un petit peu au pif, hein. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus. Je prends rarement la même. C'est-à-dire que moi, en fait, je sors de la maison, je dis, tu pars à droite ou tu pars à gauche? Et puis j'arrive au carrefour suivant, tu pars à gauche, tu pars à droite. Ah, tiens, si t'allais tout droit, si tu partais à gauche, partais à droite, tu montes là-dessus, etc. Jamais je ne fais le même chemin. Mais en fait, je pars toujours à la poursuite du soleil, hein, vraiment dans ces périodes-là. Quand je partais à 6h, je me dis, tiens, il y a le lever du soleil. Alors au début, ce que je faisais, c'est que je regardais à peu près à quelle heure le soleil se levait. Je dis, ah ouais, tiens, il va se lever à telle heure, ou à tel endroit, à tel moment. Donc je prends tel parcours, si je prends par là, comme, est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, je calculais, mais le matin même, en fait. Si c'était nuageux, ben, je m'en fous, hein. Je pars à droite ou à gauche, ça changera pas grand-chose. Si je voyais que le soleil est en train de se lever, je dis, allez, tu pars direction le soleil pour vraiment trouver le soleil. Vous voyez, un peu, c'est un peu mon étoile polaire, le soleil, en fait, dans cette histoire-là. C'est de dire, attends, le soleil, il est là. Alors, je sais où est le soleil. Hein. Dans tous les cas, en partant de la maison, je sais toujours où est le soleil à peu près à telle heure. Et je dis, attends, tu vas partir dans ce sens-là, tu vas aller voir le soleil. Si tu prends par là, tu l'auras là, tu l'auras là, tu l'auras là. Parfois, je l'ai au bord de l'eau. Parfois, je l'avais sur une petite montagne. Parfois, je l'avais sur l'autre montagne. Parfois, je l'avais dans la forêt, vous voyez. Mais en fait, la lassitude, j'ai envie de dire, de courir tous les jours, elle a été estompée. Elle ne s'est pas installée, tout simplement aussi parce que j'ai fait en sorte de ne pas pouvoir l'installer, c'est-à-dire de pas tous les jours faire la même séquence, pas la même course, pas les mêmes types de courses. Un jour je faisais du trail, un jour j'ai fait de la route, un jour j'ai fait avec les Five Fingers, un jour j'ai fait avec une paire de Altra, un jour avec une autre paire de Altra, un jour je me disais bah tiens aujourd'hui c'est une occasion pour essayer une nouvelle paire de chaussettes. Aujourd'hui tiens c'est parce que j'ai des nouvelles Altra, c'était de tester mais l'Altra en trail. Aujourd'hui un jour c'est de dire ah bah tiens tu vas faire avec les Five Fingers, tu vas essayer de passer à tel endroit avec les Five Fingers, voir ce qui va se passer. Un autre jour tu vas aller courir à tel endroit parce que t'as jamais vu le soleil à cet endroit là et donc à ces moments là vous voyez ça diminue la lassitude. Mais cette décision, en fait, je la prenais jamais à l'avance, c'est à dire qu'en fait je la prenais juste au moment de partir, c'est à dire que le matin je mettais mon short, mon t-shirt, je faisais mes petites routines du matin, je vous en parlerai après, et puis à partir de là, quand j'ouvrais la porte, j'ai bon, alors, tu fais quoi aujourd'hui? Bah, je pars à droite, je pars à gauche, je fais ça, ça et ça et ça. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué sur le fait de, qu'il n'y ait pas de lassitude, vous voyez, parce que déjà, dans ma tête, je préparais pas mon programme, je me dis pas, ah, demain, tu vas avoir telle séance, ça va être compliqué, etc. Même si, hein, par mon coach, j'avais certains jours et j'avais des séances où je me disais, il faudrait faire telle ou telle séance. Bon, là, ça change un petit peu la donne, quand même, sur l'aspect. Mais grosso modo, vraiment, hein, ma méthode, hein, moi, pour lutter contre la lassitude, c'est déjà de dire, je n'ai pas de parcours à titrer, je fais jamais deux fois le même d'affilée, et puis je vais varier les terrains, je vais varier les exercices. Il y a des jours, je vais faire de l'accélération plutôt sur des chemins trail, un jour, je vais faire de l'accélération plutôt sur de la route, un jour, je vais pas faire d'accélération, mais tiens, par exemple, un truc tout bête, un jour, je vois des escaliers, je dis, ah bah tiens, si tu montes les escaliers, je monte les escaliers, j'arrive en haut, je dis, ouh, ces escaliers, c'était un petit peu raide quand même. Je rentre à la maison, j'en fais un petit segment Strava, et la fois d'après, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je dis, ah, bah tiens, les escaliers, bah tiens, aujourd'hui, on va tester si les jambes marchent bien. Tac, 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 je monte les escaliers, et hop, à la maison, ben, je regarde, je dis, ah, bah tiens, t'es monté plus vite, moins vite, etc., comment tu le ressens? Voilà, c'est un petit peu ma manière à moi de devoir lutter contre cette lassitude physique et mentale. C'est pas très académique, franchement, mais on s'en fout, hein, voilà, c'est ma méthode à moi. C'est ma méthode à moi de course, elle est vraiment comme ça. Ne jamais avoir le même parcours, ne jamais trop décider à l'avance, varier vraiment les types de terrain, varier les types d'entraînement, et vraiment, surtout, prendre du plaisir. Et mon plaisir à moi, c'était de me dire, quand tu seras là-bas, tu vas pouvoir faire ta photo au lever du soleil. Et si vous avez suivi mon compte Instagram, @BertrandSoulier, vous en avez vu un paquet des photos de lever du soleil, même si un jour, hein, je dois avouer que j'étais un petit peu contrarié par des gamins qui avaient planté leur tente à pile endroit où je fais mes photos, et eux, ils dormaient au moment où le soleil se levait, parce qu'ils avaient picolé toute la nuit, il y avait encore les bouteilles qui traînaient. Et ça m'a un peu contrarié, j'ai trouvé un petit coin sur le côté quand même pour faire la photo, pour la partager avec vous. Alors j'ai maintenant d'autres questions qui m'ont été posées, mais qui sont là, qui portent plus en fait sur la partie physique, hein, douleur, récupération, elles sont vraiment dans ce cadre-là. Par exemple, la première question, c'est pas de douleur, est-ce que j'ai des douleurs? Alors ça, c'était ma crainte. Vraiment, c'était ma crainte. Je vous rappelle quand même que comme j'ai eu mal en plus au mollet, que une époque, bon, j'ai fait ma périostite juste avant mon marathon, ce qui devait être mon premier marathon. Je suis toujours un petit peu suspicieux sur est-ce que je vais tenir le choc ou pas tenir le choc, comment je gère le stress mécanique, etc. Mais ça m'a appris à me connaître, en fait, hein, toutes ces histoires de petites douleurs, de petites blessures, de dire, bah tiens, là, tu sais quand t'en fais trop. Par exemple, je sais que ma douleur au mollet que j'ai eue à la fin du au début du déconfinement, on va dire plutôt, dans ma période de reprise, venait beaucoup, en fait, de ma manière de courir, de ma manière, en fait, de certains appuis, etc., que j'ai voulu faire un peu de vitesse, un peu trop vite, des choses comme ça. Donc, ça m'a appris, toutes ces blessures m'ont appris à me connaître. C'est des toutes petites blessures, en fait, hein. La périostite m'avait empêché de courir 5-6 semaines, mais derrière la périostite, j'ai changé de chaussures, j'ai changé de foulée, j'ai fait attention aussi à mes étirements, j'ai changé à pas mal de choses. Tout ça, ça m'a permis de progresser. Le fait de courir tous les jours m'a permis aussi, quelque part, de progresser, c'est-à-dire qu'en fait, ou de valider en tout cas mes progrès sur certains aspects, et notamment les aspects sur tout ce qui est récupération, tout ce qui est un petit peu alimentation, même si sur ces points-là, j'ai pas été toujours très sérieux, je dois dire, hein, sur l'alimentation en tout cas, mais vraiment, hein, je dois le dire, est-ce que j'ai eu des douleurs? Certains jours, quelques courbatures, mais c'est pas sur, c'est sur les grosses séances. Le jour, par exemple, je me suis perdu, je tombais dans les ronces, etc. J'ai fait 17 bornes, dont 2 en forêt qui grimpaient, etc. Là, oui, j'avais mal aux jambes. En plus, j'étais parti pour une séance qui était plus courte. J'avais pas forcément pris de quoi manger assez, etc. Enfin, vous voyez, j'ai pas pris assez d'eau. Donc là, ben, bien sûr, le corps, il le fait payer en disant, bah, tiens, tu t'es mal occupé de moi quand même. Et donc maintenant, il y a des courbatures, un petit peu sur la journée, un petit peu le lendemain, les jambes un petit peu raides, etc. J'ai eu une toute petite douleur au genou après certains exercices qui étaient mes squats sautés, parce que je vais faire des squats sautés, du renforcement, etc. Donc là, je vois qu'il venait plutôt d'une mauvaise position plutôt que de la course, parce qu'en fait, c'est vraiment certains exercices physiques de squats sautés qui me les ont déclenchés. Rien de bien méchant. Franchement, ça n'a pas duré. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas du tout mal au genou, hein, je dois le dire. Cette petite douleur est apparue, elle a duré 2-3 jours. J'ai fait attention de voir si ça venait de la course, si ça venait de certains exercices, etc. J'ai adapté, mais vraiment, hein, vraiment, c'était ma grande crainte, et là, je dois le dire, non, pas de douleur, hein. J'ai fini mon défi, j'ai bien couru mes 31 jours sans aucun problème. Vous pouvez regarder, je boite pas, j'ai pas fait de vidéo sur la fin, je boite pas, je marche normalement, etc. Là-dessus, il y a aucun problème. Une autre question qui m'a été posée vient de Laureliard et qui me demande à quel moment tu as fait tes étirements. Alors, je dois faire un sujet spécifique sur les étirements, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que je fais comme étirement, à quel moment faut-il les faire, etc. Les étirements, c'est quand même un truc qui est très 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 contesté sur l'utilité des étirements, à quel moment faut les faire, est-ce qu'il faut les faire à chaud, est-ce qu'il faut faire des longs étirements, des petits étirements, comment on les fait, etc. Moi, j'avoue, je ne fais pas énormément d'étirements. En revanche, ce que je fais, j'ai mis une vidéo sur mon IGTV, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Je fais toujours, tous les jours au réveil, je fais un petit réveil musculaire avec des étirements des mollets. Alors, le principe est assez simple. Je mets les mollets dans le vide, hein, sur une marche d'escalier, mais vous pouvez le faire sur un gros dictionnaire, vous pouvez le faire sur plein de choses. Donc, je mets les mollets un peu dans le vide, un mollet puis l'autre, et ça, je fais environ 2-3 minutes par mollet pour vraiment étirer. Je vous rappelle, j'avais fait un épisode sur le sujet, que le principe, en fait, c'est que le corps se répare pendant la nuit, enfin il se répare. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui se détruisent et d'autres qui se construisent, que les muscles se raccourcissent et qu'il faut les rallonger. Donc les étirements, ça rallonge les muscles, ça rallonge le corps un petit peu, ça but du jeu aussi de mes exercices du matin, c'est de d'échauffer un peu les muscles, d'échauffer un peu les cartilages, de retendre, de redonner de la souplesse à tout ça. Donc ça, c'est un point important. Je fais aussi un peu de renforcement du pied et des mollets avec quelques exercices qui sont très 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 simples, hein, des rotations de hanches, des choses comme ça, vous voyez, des trucs très bêtes. Et puis marcher par exemple sur les talons, marcher sur la pointe des pieds, ce sont des exercices qui sont extrêmement bêtes, mais je vous ferai des vidéos quand même pour vous expliquer un petit peu ça, parce que c'est un peu compliqué d'expliquer juste comme ça en audio, mais en fait ça c'était mon plus gros travail de mes étirements. Je fais aussi du yoga tous les matins, ça fait bientôt un an que je fais du yoga tous les matins, je fais quelques salutations au soleil, il n'y a pas grand chose hein, dedans, il n'y a pas grand chose hein, franchement, c'est un peu de Chaitanya, c'est la vache, c'est du cobra, c'est des trucs comme ça. Alors si vous avez jamais fait de yoga, ça vous dit rien, c'est des fentes, hein. Alors il y a la fente du corps, des choses comme ça, qui étirent le psoas par exemple, mais au début je ne savais même pas que c'est étirer le psoas, moi je dis tiens ça me fait du bien. Il y a un truc, je crois qu'on appelle ça le pigeon, mais il faudra que je vous montre ça, où on plie la jambe d'une certaine manière, etc. Ça tend certains muscles, etc. Donc mes étirements à moi c'est ça, je ne fais jamais d'étirements après la séance à chaud, et souvent j'oublie de faire les étirements à froid. Alors des fois si je pense à faire un truc, c'était de mettre les pieds en l'air, vous voyez, des choses comme ça, mais sur tout le mois de juillet j'ai jamais mis un jour les pieds en l'air pour détendre mes jambes, j'ai jamais fait d'étirement 2 heures ou 3 heures après la séance, j'ai toujours pratiqué comme ça, c'est-à-dire au réveil le matin étendre un petit peu les mollets, réveiller un petit peu le corps et puis un petit peu de yoga, voilà. Mais ça c'est vraiment habituel chez moi, c'est-à-dire que c'est une routine, vraiment une routine que j'ai vraiment tout le temps, et dans cette routine j'ai la seule truc d'exercice d'étirement que j'ai, mais c'est devenu tellement machinal que je le programme pas, c'est mes étirements du tibia, des périostes, tout simplement parce que c'était le geste que m'avait donné ma kiné quand j'avais fait ma périostite, qui était, alors je peux pas vous le dire vraiment, parce que le périoste commence à s'étirer, il faut tendre la jambe dans un sens avec une rotation et puis ramener le pied dans l'autre sens avec une autre rotation, ça fait, il y a des rotations en fait hein, c'est un petit peu compliqué à montrer, mais ça en fait c'est un truc que je fais assez machinalement chez moi, c'est à dire qu'en fait par exemple si on regarde la télé, je mets les pieds sur le pouf et puis je mets les pieds en position pour arriver tout simplement à étirer le périoste dans un sens et puis dans l'autre. Ça me prend pas énormément de temps, faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment je le fais, parce que je me sens un petit peu bête là d'essayer de vous expliquer ce truc là, mais c'est un mouvement qui est vraiment très très bête. On peut même le faire avec des petits des élastiques, des choses comme ça. Moi je le fais même avec mes pieds, j'arrive même à le faire dans le lit par exemple. Si un jour je me rends compte que tiens, ça faisait mal, vous voyez, je vous dis oh tiens, t'as fait beaucoup de kilométrage en ce moment, vous voyez, je tape toujours sur mes mollets, mais en ce moment ça tape comme du bois, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'inflammation dessus. Bon, et ben ces trucs là vraiment, je pourrais me dire dans le lit, je fais un petit peu, je tends les pieds avec un petit peu la rotation qu'il faut, je ramène un petit peu les pieds, etc. Et en fait, je peux le faire pratiquement à tout moment, en fait, vous voyez. Mais ça devient tellement machinal que je programme pas d'étirements. Mais promis, je vous fais un sujet sur les étirements, parce que vraiment, c'est une question que vous me posez régulièrement. Laurélia, t'es pas la seule personne à avoir posé la question, donc ça méritera vraiment ce que j'ai dit. Je pense plutôt des vidéos pour vous montrer vraiment, parce que parler d'étirements en mode audio comme ça, on peut en parler des bienfaits ou pas, hein, bien sûr, mais d'arriver à vous montrer vraiment les étirements qui seraient intéressants, c'est un peu plus compliqué. Et puis je pense, hein, je suis pas encore le mieux placé pour vous parler des étirements. Moi je serais que dans la récup, hein, il y a tout l'entraînement invisible, la récupération, etc. Il y a plein de choses comme ça, mais c'est pas les étirements qui sont la base de ça. Pour moi, dans vraiment les étirements, c'est ce réveil musculaire du matin et mon yoga. C'est vraiment là où vraiment j'étire mon corps, où je l'assouplis, et l'assouplissement c'est extrêmement important. On le dira jamais assez, la course à pied est un sport qui raidit, hein, qui nous raidit, qui a une tendance aussi un peu à nous voûter vers l'avant, hein, tout simplement. Et donc, c'est intéressant aussi de faire du renforcement, de faire du yoga, de faire de l'assouplissement, etc. Parce que quand on est souple, on s'adapte plus facilement au terrain. Quand on est fort, quand on est musclé, quand on est gainé, etc., on s'adapte plus facilement au terrain. On s'adapte plus facilement aussi à la répétition de la foulée. On s'écrase moins dans ses chaussures, on s'écrase moins sur ses genoux. C'est une question que j'ai eue sur les genoux, notamment. Comment on fait pour ne moins avoir mal aux genoux? Donc là, je peux pas le faire dans un sujet comme ça, c'est un peu compliqué, mais où vraiment c'est le corps entier qui fonctionne. Il y a le pied, il y a la cheville, le mollet, il y a tout qui fonctionne. Et en fait, souvent, par exemple, quand on a mal, par exemple, au genou, pour revenir sur le genou, c'est souvent qu'en fait, le genou, c'est un point d'adaptation entre ce qui se passe entre le bas de la jambe, le haut de la jambe, et des fois, on est tordu de corps entier, ou on court mal, ou on peut... Par exemple, il y a un truc qui est tout bête, je vous le dis même d'ailleurs, hein, un truc dont il faut se méfier, ne pas courir avec un téléphone dans la main, parce que quand vous courez avec un téléphone dans la main, ça modifie la position de votre bras quand il court, et au lieu d'être, on va dire, avec la main dans un sens, vous l'avez dans l'autre sens, tout simplement, et ben ça peut vous provoquer, en fait, une rotation dans votre course, vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça. Alors, c'est un peu compliqué comme ça à expliquer dans cet aspect-là, mais en fait, ce que je veux vous dire vraiment dans ce sens-là, c'est que il faut se dire que les étirements, c'est pas ce qui va vous faire forcément, il y a pas que ça pour être vraiment bien. Et l'autre jour, c'est une discussion que j'ai eue sur Instagram, on en parlait, et je disais à la personne qui me posait des questions, je disais, est-ce que tu fais du renforcement? Est-ce que tu fais ne serait-ce que des squats, des fentes, des pompes? Rappelez-vous ce qu'a dit Johan Stuck, faire des squats, des fentes, des pompes, des petits trucs de proprioception. Il y a un truc sur mon Instagram, je vais montrer la vidéo, je vais montrer dans notre épisode. Il y a un an environ, je vous montrais comment je faisais l'équilibre sur une jambe en me brossant les dents le soir. Et ben ça, c'est un exercice d'équilibre, de proprioception, qui permet tout simplement de renforcer le gainage complet et qui permet aussi de faire en sorte que le corps, quand il y a un déséquilibre, quand vous mettez le pied un peu en travers ou quoi que ce soit, il va pouvoir se récupérer plus facilement parce que vous l'avez entraîné à le faire, à travailler dans le déséquilibre. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble de choses comme ça. Mais vraiment, voilà, c'est un sujet qui est vaste, hein. Ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes encore qu'on peut faire sur Kilomètre 42, sur la chaîne YouTube et dans le Hamsters Running Club pour parler de tout ça. Et c'est top. On va pouvoir faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais en attendant ça, je vais passer aux questions suivantes parce que je m'étale un petit peu dans le temps, hein. Je prends un petit peu mes aises, mais je me dis, ça vous fera une belle sortie longue encore. Et donc, ça m'amène maintenant à la question de Justine qui me demande, as-tu eu des baisses de forme? Si oui, comment as-tu géré? Alors, oui, quelques baisses de forme, pour deux raisons. La première, c'est un sommeil un peu difficile, notamment de notre fille et des coucher tard, quand elle veut pas s'endormir et qu'à 10h30, 11h, elle dort toujours pas, ça veut dire que moi qui normalement mon objectif c'est d'être couché à 10h parce que je me lève à 5h du matin et que je vais courir autour de 6h, et ben c'est tout simplement que si elle pousse dans un sens, moi au bout d'un moment je peux pas me coucher en me disant tiens tu vas te coucher toute seule quoi, et je vais pas laisser ma femme non plus gérer tout ça toute seule tous les soirs, etc. Donc souvent ce qui s'est passé c'est que le coucher de notre fille étant tard, et ben moi ça m'a décalé mon sommeil, donc j'ai des nuits des fois un peu courtes, j'ai récupéré par de la sieste, hein, par la sieste, et puis j'ai aussi récupéré tout simplement par le fait de courir en endurance mentale. Un jour où je me sentais plus fatigué, au feeling je faisais l'endurance mentale, une petite séance Quand je dis endurance fondamentale, c'était courir à 9 km/h certains jours, par exemple. À courir entre 9 et 10 km/h, tranquillement, faire 5, 6, 7 km, 8 km, ne pas dépasser ma fameuse limite des 10%, hein, enfin, même si c'est devenu souvent 20%, accepter de marcher dans les montées les plus raides, me dire, bah tiens, cette montée-là, tu pourras pas la faire en courant, tu l'as à faire vraiment en marchant tranquillement, tu vas prendre le temps de souffler en haut. Vraiment, c'est comme ça que j'ai géré vraiment l'aspect forme. Et puis, ce qui s'est rajouté aussi dans cet aspect de difficultés, c'est que je me suis mis deux difficultés. C'est que la première, c'est que je travaille avec un nouveau coach qui m'a donné des séances qui des fois parfois très dures, hein, physiquement, etc. Et là, c'est vraiment pour travailler cet aspect-là. Et puis, je me suis aussi rajouté des séances de piscine, des séances de natation. Et donc, il y a des jours, j'ai fait course le matin et natation à midi. Et donc, ben, une heure de l'un, une heure de l'autre. À la fin de la journée, il y a eu des jours où oui, j'étais un petit peu crevé, et donc le lendemain, ce que je faisais, c'était une séance qui était plus cool. Même si un jour, hein, j'ai enchaîné ma piscine le mardi et vitesse le mercredi, je peux vous dire que les jambes étaient bien raides, hein, le mercredi quand j'ai commencé ma séance de vitesse, mais petit à petit, en fait, c'est revenu et j'étais assez content d'arriver à le faire. Mais c'est vrai que l'enchaînement, hein, à la fin, il était possible à la fin parce que mon état physique, mon état de forme a bien augmenté pendant ce mois de juillet et que cette fait de courir tous les jours a beaucoup aidé là-dedans, vraiment beaucoup aidé. Mais on en revient sur l'histoire de l'entraînement invisible. Si on manque de sommeil, dans tous les cas, un jour on le paye. Alors quand on est jeune, on le paye pas tout de suite. Quand on est vieux comme moi, enfin relativement vieux, hein, mais je m'entends par rapport, parce que c'est une discussion que j'ai vu passer il y a pas longtemps. C'est vrai que moi j'avais l'image, quand je vous donnais un truc, quand je travaillais en agence web, j'ai travaillé avec quelqu'un qui à l'époque avait 40 ans et qui me disait, ah, tu vas voir, en vieillissant, il me dit le plus dur en fait c'est d'enchaîner les nuits trop courtes, quand t'as 20 ans tu sors le lendemain, ça te dérange pas trop, quand t'as 40 ans tu verras ça va te travailler un peu plus. Et je lui disais, ouais le papy, moi j'avais 25 ans, j'ai ouais le papy quand même. Et en fait maintenant bah, j'ai l'âge de ce papy, qui moi me semblait un papy, mais en fait c'était pas un papy, mais bah, bien sûr, moi vous voyez, de mes 25 ans je me dis, ouais attends, le papy il parle comme un vieux, et puis non, en fait non, et on doit l'accepter. Et donc c'est vrai que moi je me rends compte que l'importance du sommeil, rappelez-vous, on en a parlé avec Johan Stuck aussi, puis j'en ai parlé plein de fois, l'importance du sommeil. Et donc bah, quand je me sentais fatigué, je courais moins, j'adaptais ma séance, pour ça que la séance du lundi, la fameuse séance du lundi qui était plus courte, qui était plus légère, ma séance du jeudi qui était souvent plus légère, ma séance des fois du samedi matin était aussi assez légère, vous voyez, je pouvais faire une distance assez longue, mais en endurance mentale, c'est-à-dire que je pouvais faire 10 km sans ressentir de grosse fatigue ou quoi que ce soit, et puis sieste pratiquement tous les jours. C'est comme ça vraiment que j'ai géré tout cet aspect forme, vraiment pour arriver, vraiment, mon but, hein, c'est de vraiment tenir, de courir tous les jours et de ne pas être épuisé. Et quand je parle de sieste, je parle pas d'une sieste d'une heure, je parle d'une sieste de 15 à 20 minutes, hein. Donc, vous voyez, c'est pas non plus, je dis pas, la nuit, j'essaye de dormir au moins 6 heures et puis après, je récupère avec une demi-heure de sieste. Et donc, tout ça fait un équilibre qui finalement, hein, permet de construire une forme globale, hein, j'ai envie de dire. Il faut y rajouter bien sûr l'alimentation, hein, là-dessus, sur ce plan-là, parce que c'est très important de bien manger et de bien se nourrir. Ça participe aussi à l'état de forme globale. Et donc c'est cet ensemble-là qui fait que j'ai réussi à tenir tout le mois de juillet comme ça et que je le finis en pleine forme, mais vraiment en pleine forme. Et je parlais alimentation, ça m'amène à la question suivante qui m'était posée par un ami, Nico Réagi, bien entendu, que vous retrouvez sur Instagram et du Homestars Running Club. Hein. Vraiment, merci Nico pour tout ce que tu fais pour m'aider et pour me soutenir, pour m'encourager. Et puis des fois, il m'a foutu un coup de pied au cul, ça m'a fait du bien. Il m'a posé une question parce qu'il sait, il me suit depuis très longtemps, il a vu ma perte de poids. Il me dit, as-tu perdu du poids? Eh ben, la réponse est un tout petit peu, mais pas beaucoup. En fait, je n'ai pas été très sérieux sur le plan alimentaire. Alors attention, attention quand même. Hein. Faut pas non plus dire, j'ai bouffé il y a des jours, par exemple. On avait envie d'une pizza, on mangeait une pizza, quelques envies de sucre. Hein, en ce moment, j'ai quelques envies de sucre, ce qui démontrerait que soit je bois pas assez d'eau, bon, mais ça, je surveille, j'ai pas l'impression, soit je manque un peu de protéines, potentiellement, ça peut venir de ça, soit il peut y avoir des manques après, vous savez, dans certains trucs, magnésium, etc. Mais bon, voilà, là, je regarde sur ma table, j'ai acheté un complément alimentaire avec de la spiruline, mais il y a d'autres trucs que de la spiruline. On va voir si quelque part ça améliore ma forme globale, mais j'en suis pas certain que ce soit ça. Vraiment, je connais, hein, pour avoir perdu mes 27 kilos, je sais exactement sur quel truc ça agit, et je sais aussi qu'il y a la tentation dans certains tiroirs, hein. Je sais, par exemple, le beurre cacahuète, vous voyez, une cuillère de trop, par exemple, j'ai dit j'en mangerai moins, bon, j'en ai mangé un peu plus, la purée d'amande, vous voyez, des choses comme ça. qui sont placés pas forcément au bon moment. J'ai mangé beaucoup de fruits. Alors c'est du sucre, c'est de la bonne énergie, mais c'est aussi un peu de sucre. Peut-être que il y a globalement un peu de sucre sur certains moments. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu 500 grammes sur mon mois de juillet, ce qui est pas énorme, mais j'ai perdu 900 grammes de masse grasse, ce qui est mieux, hein, soyons honnêtes. C'est quand même beaucoup mieux. Donc ce qui veut dire quand même que, bah, en même temps, hein, j'ai aussi fait, parce que je vous ai pas dit, j'ai fait du renforcement, etc. Mais ça m'amènera à la question suivante parce que c'est l'objet de la dernière question, ou l'une des dernières questions, vraiment sur, j'ai fait par exemple mes pompes, mon gainage, mes abdos, du renforcement, je travaille des élastiques, des choses comme ça, et donc j'ai peut-être pris un peu plus de muscles, donc ce qui fait que j'ai pas perdu de poids, mais j'ai perdu un peu de gras, donc ça se voit par endroit, voilà, ça se voit par endroit, j'ai pris un petit peu de muscles, hein, on l'a remarqué avec ma femme qui m'a fait la remarque, elle m'a dit tiens oui t'as pris un peu du haut du corps, bon mes abdos n'apparaissent pas, hein, toujours pas, mais bon j'en fais pas assez d'abdos non plus, soyons honnêtes, et puis comme je disais à ma femme, je disais pour faire apparaître vraiment les abdos, il y a vraiment un travail qui est important sur un travail un peu de sèche. Hein. Faudrait que je fasse un peu de sèche pour essayer d'assécher ce gras, un petit peu ce gras qui est en trop. J'ai un pourcentage de masse grasse qui est un peu plus élevé qu'au début, qu'avant le marathon de Paris, par exemple, tout simplement, qui s'explique aussi parce que pendant la préparation du marathon de Paris, j'étais beaucoup plus sérieux sur le plan alimentaire. Alors là, vraiment, je dérogeais pas au truc. Et ceux qui ont vu la préparation du marathon de Paris, notamment au club, m'a dit waouh, tu t'es allégé. Et j'avais perdu effectivement 2-3 kilos pendant les 10-12 semaines de préparation du marathon. Et sur Albi aussi, j'ai commencé un petit peu à m'alléger parce que en fait, vous voyez le kilométrage, j'étais pas beaucoup plus élevé, mais j'étais plus sérieux sur l'alimentation. Et puis il y a aussi des exercices, je pense, avec plus de vitesse qui demandaient plus d'efforts au corps aussi, vous voyez, sur des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a un ensemble. C'est ce que j'avais vu un petit peu. Par exemple, je suis pas très à l'aise sur des distances de 5 ou 10 km que j'estime qui sont très rapides pour moi et peut-être trop rapides par rapport à ma vitesse. Ou en tout cas, moi je trouve que c'est amusant de les faire, mais amusant et à la fois éreintant. Mais j'avais vu aussi pourquoi je l'ai fait aussi, c'est parce que ça aide aussi dans ces aspects-là, hein, de poids, de musculation, de renforcement, etc. Ce sont aussi des distances qui ont une certaine exigence et qui finalement amènent aussi le corps à s'adapter de manière différente. Et moi, je me suis rendu compte, hein, vraiment quand je fais plus de vitesse, quand on fait de la piste, etc. avec le club, mais pour l'instant, nous, on n'a plus accès à la piste, hein, depuis le coronavirus. Donc autant vous dire que ça fait un bout de temps. L'autre jour, je passais devant la piste, j'ai fait une petite. J'ai dit, tu me manques. Je pensais pas qu'un jour, je dirais à la piste d'athlétisme qu'elle me manquerait parce que les séances sur piste sont les quand même les plus compliquées. Mais voilà, ça fait partie d'un ensemble, en fait, hein, vraiment d'un ensemble qui est de dire. Quelques envies de grignotage de plus, j'ai peut-être moins contrôlé, j'étais moins sérieux, je me dis j'ai pas d'objectif grosso modo qui arrive très rapidement, même s'il y en a un qui va arriver en septembre, mais on en parlera bientôt. Voilà, donc j'étais un peu moins sérieux sur l'alimentation, et peut-être que ce type d'entraînement demande moins d'exigence au corps, ou en tout cas que le corps s'allège moins, ressent moins le besoin de s'alléger. En tout cas, voilà, tu as le bilan, Nico, je te dis, j'ai perdu 500 grammes, mais surtout 900 grammes de masse grasse, donc en un mois, hein, soyons honnêtes, hein, je flirte avec ma barre autour des 80 kilos dans cette zone-là, hein, je suis un gaillard un peu costaud, si vous regardez les photos avec mes gros mollets, il faut les transporter, etc. Mais en tout cas, je suis assez content, vous voyez, dans cet équilibre-là, dans cet équilibre global, d'être vraiment à ce poids qui est, je dis pas c'est mon poids, je dis pas que je pourrais pas être plus léger parce que j'étais plus léger à une époque. Mais en tout cas, c'est un poids avec lequel, vous voyez, je peux manger du chocolat, je peux manger quelques gourmandises, on peut manger une pizza ou deux, on a mangé un hamburger avec des frites un jour, au livreur du coin, sans avoir une crainte, vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. Le rééquilibrage alimentaire, donc les efforts, qui ne sont plus des efforts, c'est-à-dire que ce sont des habitudes globales sur le plan alimentaire, plus les habitudes sportives, plus l'habitude de sommeil, plus l'habitude de boire, etc. C'est ce que j'explique dans ma formation qui s'appelle SAM, sommeil, alimentation, mouvement, hein, qui sont vraiment la base de comment j'ai perdu mon poids et comment j'ai retrouvé mon énergie. Vraiment, quand on prend cet ensemble-là, en fait, quand cet ensemble-là est assez équilibré, même si des fois il y a des déconnages, bon, et ben, en fait, ça finit par se récupérer l'un l'autre et il y a une certaine stabilité. Si j'ai vraiment voulu perdre du poids, il aurait fallu que je sois beaucoup plus sérieux. Bon, on s'approche tout à petit de la fin de l'épisode et maintenant j'ai une dernière série de questions et en fait. Il y a un paquet de personnes qui ont posé la question. Donc je vais remercier Sisclix. John, je te souhaite un bon rétablissement d'ailleurs pour ta cheville, ton pied, Estelle, Cécile, qui m'ont demandé. Alors, en vrac, c'est tu recommandes et tu recommences. Voilà, je peux reprendre la question. Est-ce que je recommande et est-ce que je vais recommencer? Alors, est-ce que je recommande? Alors, sur le plan physique, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde, si tout le monde peut le faire. Je pense que c'est vraiment une question de son niveau, sa progression, etc. Je pense que oui, tout le monde peut le faire, mais je pense que voilà, il faut pas se dire aujourd'hui je pars courir 10 km tous les jours. Voilà, c'est ça, je vous rappelle la règle des 10% qui est importante. Je vous rappelle que même peut-être il est plus important d'aller marcher tous les jours. Moi, vous voyez, l'objectif des 10 000 pas, c'est-à-dire marcher tous les jours, marcher ne crée pas de fatigue en fait. Si vous allez marcher 30 bornes, oui, vous allez être fatigué le lendemain, mais si vous allez marcher 5-6 km tous les jours, ça va pas créer de surfatigue. Donc vous pouvez aller marcher tous les jours et vous dire, bah, il y a certains jours, je vais faire de la course et de la marche. Il y a des jours, je vais courir et il y a des jours, je vais marcher. Courir, marcher, marcher, courir, etc. Donc oui, ça, je recommande de dire tous les jours, on s'astreint à une activité physique et l'activité physique peut être le cas des 10 000 pas. Ou ça peut être de dire, je marche tous les jours une heure, mais tous les jours une heure. Et puis il y a des jours, vous allez courir et ou des jours, vous allez faire une demi-heure de course, une demi-heure de marche en faisant alternance, etc. Ça, oui. Je recommande. Sur le plan mental, oui, je recommande. Si vous cherchez un petit peu à vous motiver sur certains défis, si vous trouvez que vous ennuyez un petit peu, que c'est toujours un peu plan-plan, que vous faites toujours un petit peu la même chose, je vous dis oui, très clairement. Sur le plan mental, ça vous pousse un petit peu à vous dire est-ce que je suis capable de le faire ? Ça vous met un petit défi, ça vous met... En fait, ça remplace le dossard, soyons honnêtes. Il y en a qui se motivent, rappelez-vous, hein, Mathieu, lui se motivait sur les courses virtuelles, sur la vitesse, etc., sur battre des records. Il y en a qui vont se motiver sur la régularité. Moi, c'était plutôt sur la régularité. Il y en a qui vont se motiver sur la distance. Il y en a qui vont se motiver sur des défis un petit peu fous. Bon, bah, voilà, ce défi-là, je vais vous dire, hein, c'est d'aller courir tous les jours, mais de vous dire tous les jours, je vais courir une demi-heure. Peut-être ça vous peut vous sembler impossible, mais si vous avez envie de voir si c'est possible, ben oui, je vous le recommande, et vous allez voir qu'à la fin du mois, quand vous aurez fait ça, vous allez dire waouh, oui, j'en suis capable, et ça vous gonfle le moral. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Oui, ça gonfle le moral. Ensuite, est-ce que je recommande sur le plan organisation? Très clairement, ça m'a enclenché une nouvelle routine. En fait, il y avait un truc, c'était sur mes pompes, où j'avais du mal à placer mes pompes dans la journée, parce que si je les faisais pas le matin, je les repoussais tard le soir, c'était pas idéal. Et maintenant, j'ai une routine, mais vraiment un truc qui voilà. Le matin, donc, je prends mon jus de citron, je m'étire, je fais mon yoga, je vais courir, je fais mes pompes, mon renforcement, et ensuite, je prends ma douche et mon petit déj. Vous voyez cette routine-là, comme ça, hein, vraiment, ce truc-là. Eh ben, mes pompes, mes 50 pompes du matin, elles passent comme ça, crème, avec des squats, des fentes, etc. Mais ça passe vraiment crème là-dedans. C'est-à-dire que j'ai même plus le questionnement, voyez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, le fait de dire, je sais que demain je vais aller courir, je sais que je vais aller, enfin, j'ai même plus la préparation, vous voyez, tous les soirs, bon, ouais, je posais mon short et ma truc, je prenais ça, je disais, tiens, aujourd'hui je vais courir, je vais faire ça. Bam, voilà. Sur le plan d'organisation, ma journée était organisée pour que j'arrive à le faire. Et donc ça, là-dessus, c'était vraiment un super, super, super point. Et donc, si vous avez un peu de mal à vous caler sur l'organisation, ça peut être un exercice qui est intéressant de vous dire comment je me place tous les jours un temps à moi, vraiment un temps à moi, un temps pour faire du sport, comment je le place. Et ben, ce type de défi peut vous aider à arriver à le faire. Et donc voilà maintenant qui m'amène à la dernière question. Mais la dernière question, le fameux « tu recommences » hein, qui a été posté donc par Cyclix, Estelle, Cécile, hein, merci. As-tu envie de poursuivre l'expérience? Tu penses continuer en août? Alors la réponse c'est, si vous me suivez sur Instagram, si vous regardez mon Strava, vous constatez que je me suis pas arrêté. Nous sommes aujourd'hui le 4 août et donc j'ai continué mon défi. Alors sur Instagram, j'ai mis un petit hashtag qui était 31 jours running. Et en fait, maintenant j'ai rajouté plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc ce matin, j'ai fait mes 9:30 hein, tranquillement sur mes chemins de trail avec un petit peu d'accélération. Parce qu'on est mardi, hein, j'enregistre le mardi. Voilà, donc je continue tranquillement. Alors est-ce que je vais pouvoir continuer longtemps? Ça, c'est une autre question. Et en fait, ce qui se passe, c'est que est-ce que je continue en août? Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais me mettre un autre défi? Parce que quelqu'un m'a dit, est-ce que tu te lances sur un défi 60? Est-ce que tu vas faire ça tout le mois d'août? Est-ce que tu fais 60? Est-ce que tu veux faire un 365, etc.? Et en fait, je me suis... Et ça, c'est un élément qui est important sur les habitudes et sur ce genre de défi. C'est que en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que au fur et à mesure que j'arrivais à la fin, vers la fin des 31 jours, je commençais à faire un décompte en disant « Ah bah tiens, c'est bientôt fini cette histoire de truc. » Et en fait, pourquoi? Parce que j'ai mis une deadline, j'ai mis une fin. Et donc, dans ma tête, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai basculé dans le fait de dire que je ne mets pas de fin. Voilà, tout simplement. Donc, bien sûr, vous l'avez pas vu parce que j'ai continué à dire « Bah tiens, on est à 27, 28, 29, 30, 31, etc. » Mais dans ma tête, en fait, j'ai prévu de continuer. Tout simplement pour dire « Je fais un jour de plus, plus un. » Plus simple, plus simple, plus simple, plus simple, plus simple, plus simple. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est un élément qui est intéressant et que peut-être que si vous êtes lancé par du défi quotidien, vous devriez pas vous dire, allez, au mois de juillet, je vais faire 31 jours, enfin, le mois de juillet, c'est passé, mais au mois d'août, je vais faire, ou au mois de septembre, je vais faire 30 jours, etc. Parce que ça vous met un décompte. Et en fait, le fait de dire, quand je suis arrivé au 30, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé. Si c'est bien, si vous vous sentez bien, si vous n'êtes pas blessé, si vous êtes, si ça vous apporte plein de bonus, etc. Pourquoi vous arrêter en fait? Et c'est ça qui est intéressant dans le principe du défi quotidien, c'est de dire que si finalement ça vous apporte un plus, si vous sentez bien, si ça vous pose pas de problème, etc. Plutôt que de partir sur un défi de dire je vais faire 30 jours ou 30 jours ou comme ça, et quand je suis arrivé aux 30 jours, je m'arrête. Bon, moi je trouve que c'est dommage de dire si j'ai essayé de faire tous les jours un jour. Et c'est-à-dire que c'est vraiment le principe des petites croix. Tous les jours, je fais une nouvelle croix. Tous les jours, je fais une petite croix pour voir est-ce que je vais arriver à faire un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Et peut-être qu'au départ, vous n'avez pas besoin de vous dire, je vais faire 30 jours, peut-être pas 60 jours, peut-être pas 360. Peut-être vous juste vous dire, tous les jours, je fais ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je fais en sorte de ne jamais briser la chaîne, c'est-à-dire de vraiment faire tous les jours une croix. Alors moi, sur mon bureau, à l'arrière de mon bureau, il y a un grand tableau sur lequel j'avais fait le mois de juillet. J'ai fait tous les jours, je faisais ma petite croix, etc. Mais en fait, sur mon bijou, hein, mon bullet journal, j'ai des chaînes comme ça qui sont faites avec les pompes, avec des choses comme ça, où en fait, la chaîne ne s'arrête pas. Le but du jeu, c'est de ne jamais l'arrêter. Et donc, la question qui se pose finalement dans cette histoire-là, c'est de savoir est-ce que je recommence, est-ce que je recommencerai un jour, je ne sais pas, pour l'instant je ne suis pas arrêté, en fait j'ai continué dans mon histoire. Alors bien sûr il peut y avoir des facteurs qui peuvent faire ça, un jour par exemple l'ostéo pourrait me dire, parce que je vais aller voir l'ostéo dans 2-3 jours, pourrait me dire bon bah là il va falloir vous arrêter de courir parce que par rapport aux manipulations etc. c'est pas bon de courir ou quoi que ce soit, mais peut-être que il me dira non vous pouvez en faire tout doucement ou je sais pas quoi, et donc peut-être que je peux poursuivre la série d'une journée de plus. Peut-être que après, pendant l'hiver, il peut y avoir des trucs qui vont dire le temps ne me permet peut-être pas de le faire, etc. Mais peut-être qu'en organisation différente, je peux faire ça. Et donc, alors l'hiver, hein, vous rendez compte, si j'arrive à l'hiver, on va dire je serai déjà à 100 jours peut-être ou 150 jours, on ne sait pas. Vous voyez, mais en fait, en pensant comme ça, non pas en est-ce que tu fais un mois de plus, en disant bah quand je vais arriver à la fin du mois d'août, je vais me dire bah tiens, j'arrive à la fin du mois d'août, j'arrive à l'échéance, et donc. En arrivant à cette échéance, je commence à penser à la fin de l'échéance en me disant bah c'est bientôt fini. Non, je vais pas le penser comme ça. Je vais continuer plutôt sur cet aspect-là de dire juste un jour de plus, juste un jour de plus. Et je pense que c'est un très bon conseil que vous devez considérer, c'est-à-dire que quel que soit l'effort que vous fassiez, mais c'est valable, vraiment valable dans tout, parce que ça pourrait être pour du dessin, ça pourrait être pour si vous voulez apprendre à programmer, si vous voulez écrire un livre, si vous voulez écrire un podcast ou quoi que ce soit, vous dire juste je fais juste la croix de plus, le jour de plus. Et ça marche pas seulement d'ailleurs si c'est du quotidien, ça marcherait aussi si c'est de l'hebdo, par exemple de dimanche, dire chaque dimanche je vais courir. Chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche. Un dimanche plus, un dimanche de plus, un dimanche de plus, un dimanche de plus. Et ne jamais briser cette chaîne. Toujours, toujours, toujours comme ça. C'est comme ça que l'habitude, elle se forme, en fait. Elle se forme pas sur le fait de dire, je vais faire 30 jours comme ça, et au bout de 30 jours, j'aurai une nouvelle habitude, etc. Non, c'est pas vrai, parce que si on se met la limite de 30 jours, on a une tendance, d'ailleurs, plus on va s'approcher de la fin, plus on va se dire, bon bah c'est bientôt fini, et après j'en suis débarrassé, j'arrête. Alors que si ça vous fait du bien, si ça vous apporte un plus, si le fait par exemple d'aller courir tous les dimanches, vous sentez que ça vous apporte un vrai plus, un vrai bonheur, un vrai truc en plus, c'est pas vous dire, je vais courir 30 jours pendant un an, je vais courir tous les dimanches pendant un an, et puis après j'arrête. Non, c'est de vous dire, tous les dimanches, qu'est-ce qui se passe si tous les dimanches je le fais? Et c'est pareil si vous voulez créer un podcast, c'est pareil si vous voulez écrire un bouquin, c'est pareil si vous voulez bien manger, c'est pareil si vous voulez faire des abdos, pourriez-vous dire, tous les jours, je fais un petit peu des abdos. Tous les jours, je vais faire un petit peu de ça. Tous les jours, je vais marcher. Tous les jours, je vais faire mes 10 000 pas. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, vraiment, vous voyez, dans le domaine de l'habitude, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement porteur et qui est peut-être finalement le truc hein, dont j'avais peut-être la plus grande surprise dans mon histoire. C'était peut-être ça, c'était de dire, est-ce que franchement, courir 31 jours, c'est possible? Au départ, je me suis dit, ça me semble largement possible. J'ai vu qu'il y en a un gars qui court, Raven, il court depuis 40 ans. J'ai vu Elijah Good. J'ai perdu son nom. En plus, le pauvre, il s'est blessé, mais il continue à courir. Alors, il court beaucoup moins, mais il continue à courir. Et il a fait 1000 jours d'affilée. Et lui, il est pareil. Il a dit, un jour, j'ai commencé. Et puis, tous les jours, je fais ça. Un jour, un jour, un jour. Et au début, je comprenais. Je voyais pas comment il avait commencé. Et un jour, en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que tous ceux qui sont comme ça dans ces trucs-là, ils sont pas dans le truc de dire, je vais faire 30 jours, je vais faire 40 jours, 60 jours, 365. Ils sont dans le truc de dire, tiens, si je poursuivais un jour de plus, et un jour de plus, et un jour de plus, et un jour de plus, qu'est-ce qui se passe un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus? Et c'est pour ça que, pour répondre à la question, est-ce que je recommence, Oui, je peux vous dire que je vous le recommande, mais peut-être vous n'êtes pas obligé de vous dire je vais courir tous les jours pendant X temps, pendant un mois ou quoi que ce soit, mais juste de dire je peux tenter de mettre du mouvement tous les jours. Un jour je vais marcher, un jour je vais courir, un jour je vais nager, mais tous les jours je coche la case qui est de dire je fais un effort pour bouger, je mets du mouvement. Ça, oui, c'est super intéressant. Et c'est pareil, par exemple, sur les efforts. C'est pareil sur si vous voulez manger moins de sucre, si vous voulez pas boire de coca, par exemple. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté de boire du coca, c'est ce qui m'a permis de perdre beaucoup de poids. Mais je pourrais faire une case en disant, oui, aujourd'hui, j'ai passé un jour de plus sans boire de coca. Un jour de plus. C'est pas de dire, allez, pendant 7 jours, tu bois pas de coca, et puis à la fin du 8e, tu pourras boire un verre de coca pour te féliciter. Non, ça n'aurait aucun sens. Le sens, c'était de dire, eh ben, tiens, tu fais un jour de plus, un jour. Et puis, si t'arrives à 100 jours, eh ben, waouh, quel truc. Si t'arrives à 200, quel truc. Mais peut-être, tu vas t'arrêter à 10 ou 15 parce que finalement, tu te rends compte que c'est pas bien. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, d'aller marcher tous les jours, ça vous prend trop de temps, trop d'énergie, mentalement, c'est pas bon, etc. Et donc, peut-être qu'au bout de 5-6 jours, vous dites, ah, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Mais c'est à essayer, je trouve, de cette manière-là. Et vous allez voir, hein, petit à petit, c'est comme ça que se forment de nouvelles habitudes, que se forment de nouveaux réflexes. Et puis, vous n'êtes pas obligé non plus d'être dans le quotidien. Vous pouvez être dans le truc de dire, allez, chaque semaine, tous les mercredis, tous les dimanches, je vais marcher ou courir, ou nager et courir, ou faire ça, ça et ça, etc. Et vous dire, maintenant, tous les dimanches, je prends mon calendrier, tous les dimanches, je ferai une croix hein, sur chaque dimanche en disant, je suis allé courir. Chaque dimanche, je suis allé courir. Ou chaque samedi, je suis allé nager. Ou chaque lundi, j'ai fait une petite séance de 30 minutes de pompe ou je sais pas quoi. Enfin, 30 minutes de pompe, non, de renforcement ou quoi que ce soit. Et vous allez voir que c'est autant intéressant, je pense, hein, que de faire ce type de défi. Mais après, si vous avez envie de faire un défi de courir tous les jours au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre ou n'importe quoi. Bien entendu, si ça vous branche, essayez de le faire. Je vous donne bien sûr des conseils, je vous ai donné mon ressenti, je vous ai dit moi comment je l'ai fait. Je vous ai dit, moi je suis encore dans la série, hein, la série pour l'instant, on pourrait dire, se poursuit, hein, voilà, je continue à faire mes petites croix. On va voir combien de temps on fait les croix. Quand on en parle à la maison, ma femme me dit, t'es encore allé courir? Je dis oui, mais voilà, je me sens bien comme ça, et je trouve que pour moi, c'est une expérience qui est bien. Et puis si un jour, les questions, vous m'avez dit, est-ce que ça devient trop fatigant? Est-ce qu'il y a trop de lassitude? Est-ce qu'il y a trop de fatigue mentale, de fatigue physique, etc.? Ça voudra peut-être dire que ça m'apporte plus de mal que de bien. Et que dans ce moment-là, il sera temps d'arrêter de faire les croix. Et qu'il faudra accepter que la chaîne s'arrête. Parce que peut-être que tout simplement, il y a une limite. Mais que la limite, en fait, c'est pas un temps comme ça qui est défini sur le calendrier. C'est le moment où je ressentirai le besoin, mon corps me dira, et si maintenant tu t'es arrêté, et si tu envisageais les choses totalement différemment. Voilà, c'était donc le bilan de mon expérimentation du mois de juillet. Vous avez tous les éléments sur le mois de juillet. Alors si bien sûr il y a des questions auxquelles j'ai oublié de répondre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Venez me le dire sur l'Amsterdam Running Club, venez me le dire sur le blog, hein, il y a les commentaires qui sont possibles. Hein, vous faites km42.run et vous avez tous les épisodes, hein, vous pouvez commenter tous les épisodes. Et puis bien sûr, si vous voulez laisser une petite note sur Apple Podcast, vous allez sur Apple Podcast, vous laissez une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sympathique. N'oubliez pas aussi les petites dédicaces, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs.